Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus-Christ selon l'écrit de Matthieu, texte de la liturgie catholique pour le dimanche de la Passion. Alors, quand Jésus a achevé toutes ses instructions, il dit aux disciples :
Vous savez que dans 2 jours vient la Pâque, et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié.
C'est alors que les grands prêtres et les anciens du peuple se réunissent dans le palais du grand prêtre, le nommé Caïphe. Ils se concertent pour se saisir de Jésus par ruse et le tuer. Mais ils disent :
Pas pendant la fête, afin qu'il n'arrive pas un tumulte dans le peuple.
C'est alors que l'un des 12, le nommé Judas Iscariote, se rend auprès des grands prêtres. Il dit :
Que voulez-vous me donner ? Et moi, je vous le livrerai.
Ceux-ci lui pèsent 30 pièces d'argent. Dès lors, il cherche une occasion favorable pour le livrer. Le soir revenu, Jésus est attablé avec les 12. Pendant qu'il mange, il dit :
Amen. Je vous le dis, l'un de vous me livrera.
Fort attristé, ils commencent chacun à lui dire :
N'est-ce pas moi, Seigneur ?
En réponse, il dit :
Qui plonge avec moi la main dans le plat, celui-là me livrera.
Judas, qui est en train de le livrer, répond :
Serait-ce moi, Rabbi ?
Il lui répond :
Tu l'as dit.
Pendant qu'ils mangent, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, il le partage, et l'ayant donné aux disciples, il dit :
Prenez, mangez, ceci est mon corps.
Prenant une coupe et ayant rendu grâce, il leur donne en disant :
Buvez tous à cette coupe, car ceci est mon sang, celui de l'Alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des fautes.
Alors Jésus leur dit :
Cette nuit même, vous tous, vous allez chuter à cause de moi. Il est écrit en effet : Je frapperai le pasteur, et les bêtes du troupeau seront dispersées. Mais, après avoir été réveillé de la mort, je vous précéderai en Galilée.
Pierre répond et lui dit :
Si tout chute à cause de toi, moi jamais je ne chuterai.
Jésus lui déclare :
Amen. Je te dis que cette nuit même, avant le chant du coq, 3 fois tu me renieras.
Pierre lui dit :
Même si je devais mourir avec toi, non, je ne te renierai pas.
Et tous les disciples disaient la même chose. Alors Jésus va avec eux dans un domaine appelé Gethsémani. Il dit aux disciples :
Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier.
Il prend avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commence à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit :
Mon âme est triste, triste à mourir. Restez ici et veillez avec moi.
S'avançant un peu, il se prosterne en priant ainsi :
Mon Père, si c'est possible que cette coupe passe loin de moi. Pourtant, non comme moi je veux, mais comme toi.
Il vient vers les disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre :
Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer dans l'épreuve.
Il parle encore quand arrive Judas, l'un des 12. Et avec lui toute une troupe. S'approche aussitôt de Jésus, il dit :
Salut, Rabbi. Et il l'embrasse.
Jésus lui dit :
Ami, c'est pour cela que tu es là ?
Alors ils s'approchent, mettent la main sur Jésus et l'arrêtent. Ceux qui ont saisi Jésus l'amènent chez Caïphe, le grand prêtre, là où les scribes et les anciens se sont réunis. Pierre suit de loin jusque dans la cour du grand prêtre. Il entre à l'intérieur et s'assoit avec les gardes pour voir le dénouement. Une servante s'approche de lui en disant :
Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen.
Lui nie devant tous, disant :
Je ne sais pas de quoi tu parles.
Comme il sort vers le portail, une autre le voit et dit à ceux qui sont là :
Celui-ci, il était avec Jésus, le Nazoréen.
Il nie à nouveau, et jure
« Je ne connais pas la personne ».
Peu après, ceux qui se tiennent là s'approchent et disent à Pierre
« Pour de vrai, toi aussi tu en es. D'ailleurs, ton accent te fait repérer. »
Alors ils se mettent à sacrer et à jurer
« Je ne connais pas la personne ».
Et aussitôt, un coq chante. Pierre se souvient de la parole de Jésus qui avait dit « Avant le chant du coq, trois fois tu m'auras renié. » Il sort dehors et il pleure amèrement. Je ne connais pas cette personne. Comment est-il possible que Pierre ait dit cette phrase?
Oui, comment Pierre peut-il renier en une nuit des mois et des mois de communion et d'amitié? Est-ce que c'est par lâcheté, par peur? Pourtant, n'a-t-il pas promis de combattre? N'a-t-il pas pris l'épée au jardin de Gethsémani? Ou bien alors, n'est-il qu'un fanfaron, je ne te renierai jamais, même si tous t'abandonnent? L'amitié de Pierre est-elle trop faible, trop superficielle? Mais les récits évangéliques semblent nous dire le contraire. C'est dans sa maison que Jésus réside à Capharnaüm. C'est dans sa barque qu'il enseigne au bord du lac. C'est lui qui va dire à Jésus, « À qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. » Et Jésus lui a donné le surnom de Roc. Et c'est à lui que Jésus confie le soin de paître son troupeau. « Simon, tu es Roc, tu es Pierre, et sur ce Roc j'établirai mon assemblée. » Enfin, c'est lui qui se trouve sur la montagne pour la transfiguration.
Alors, comment comprendre cette phrase « Je ne connais pas cette personne ».
Oui, de quelle personne d'abord s'agit-il? Tout à l'heure, Pierre a vu Jésus écrasé par la souffrance. Il l'a vu angoissé, suant le sang devant la mort, triste, triste à mourir. Tout à l'heure, il a vu Jésus refuser de se défendre comme un faible, ou un non-violent qui prend l'épée périra par l'épée, a dit Jésus. Il l'a vu se livrer lui-même à une bande de bandits venus au nom d'une petite clique de chefs religieux qui sont plutôt détestés par le peuple. Jésus aurait pu se défendre, neutraliser les gardes, soulever les foules, ces foules l'auraient sans doute défendu. Tout à l'heure, Pierre a vu Jésus humilié, bafoué comme un vaurien, et resté muet, se taisant, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Tout à l'heure, Pierre a vu Jésus accusé de blasphème, d'outrage à Dieu, lui qu'il a connu comme le Fils bien-aimé de Dieu. Je ne connais pas cette personne. Mais ce n'est pas la première fois que Pierre refuse de connaître cette personne-là. Quand Jésus a annoncé pour la première fois qu'il avait décidé d'aller à Jérusalem pour se livrer aux prêtres et aux anciens, on se souvient, Pierre a spontanément réagi, « Dieu t'en préserve, il ne faut pas que cela arrive. » Jésus alors l'avait violemment traité de Satan.
Comment expliquer ce que ressent Pierre ?
Est-ce que ce n'est pas qu'il lui est difficile de comprendre pourquoi Jésus a choisi d'être cette personne-là, d'être cette personne qui va marcher vers la croix? Comment Jésus peut-il devenir le contraire de celui que lui, Pierre, a choisi de suivre? Lui, Pierre, il a tout quitté pour suivre quelqu'un en qui il a vu le Messie de Dieu. Et Jésus a confirmé que lui, Pierre, était inspiré par Dieu quand il déclarait que Jésus était le Messie. Et voilà qu'au bout du chemin, il se trouve en face d'un condamné qui se laisse condamner. Comment ce Jésus faible peut-il être le Messie? Et même on pourrait dire qu'au-delà de l'image de Jésus, c'est l'image même de Dieu qui est ici remise en question. Dieu, pour Pierre, n'est-il pas le Tout-Puissant qui libère? Dieu n'est-il pas celui qui nous délivre de nos ennemis, qui en triomphe? Dieu n'est-il pas le juste juge qui punit les impies et les malfaisants? Dieu n'est-il pas celui qui soutient le juste et qui défend ses droits contre ceux qui l'oppriment? Alors, c'est tout son univers religieux, c'est toute sa foi en Dieu qui se trouve ainsi remise en cause par l'attitude de Jésus. Que fait en effet le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant et juste, en laissant ainsi Jésus sans secours, en l'abandonnant d'une certaine manière? Oui, on peut dire que le doute est entré dans le cœur de Pierre. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Cet homme est-il vraiment choisi par Dieu?
Ce qui arrive à Pierre n'est-il pas d'ailleurs ce qui peut arriver à tous ceux qui s'engagent à la suite de Jésus?
Oui, un jour ou l'autre, dans notre engagement à la suite de Jésus, nous rencontrerons de l'opposition et des critiques. Nous pensions, dans notre générosité, pouvoir réussir. Ce besoin de réussir est tellement ancré dans l'être humain. Mais il nous faut regarder le chemin de Jésus. Son chemin de réussite a abouti à la croix. Et c'est d'une certaine manière humain que ce soit difficile à accepter. Dans son doute, Pierre n'est peut-être pas très loin de tous ceux qui approuvent la mort de Jésus.
Car pourquoi Jésus va-t-il être condamné à mort? Trouvons-nous les raisons véritables dans les récits de la Passion?
Trouvons-nous les raisons véritables, peut-être, mais pas si facilement. Les quatre récits de la Passion donnent comme ultime raison de la condamnation « cet homme s'est dit le Messie ». C'est une affirmation qui devait provoquer l'intervention de Rome. Rome qui ne peut pas supporter d'autres chefs politiques en Israël que ceux que l'empereur nomme, afin qu'il gouverne en son nom. Les chefs juifs pensent aussi qu'il vaut mieux qu'un seul meure plutôt que de voir Rome réprimé dans le sang un regroupement populaire autour de Jésus comme Messie. Le semblant de procès devant le Sanhédrin qui est l'assemblée des chefs juifs, ne trouve guère de vraies accusations à porter contre Jésus. Et il sera condamné pour s'être dit Messie, mais cette accusation n'en est pas une pour un juif, puisque les juifs attendent justement le Messie. Sans doute, ils vont invoquer ce motif pour faire condamner Jésus par le représentant de l'empereur romain, Pilate. Mais Pilate va dire qu'il ne trouve rien de reprochable en Jésus. D'ailleurs, on peut dire que la décision des chefs juifs était prise avant même la comparution devant le Sanhédrin et devant Pilate. Ce qu'ils reprochent à Jésus, ce n'est pas tellement de se dire le Messie, c'est plutôt d'avoir un comportement, un enseignement, qu'ils ne reconnaissent pas comme celui du Messie.
Que reproche-t-on à Jésus?
Eh bien, on lui reproche essentiellement de porter atteinte à la Torah et à toute la conduite que la Torah préconise.
Et comment cela?
Eh bien, parce qu'il mange chez des publicains qui sont des voleurs et des collaborateurs avec l'ennemi. Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. C'est chez un pêcheur qu'il est allé loger, disent les gens. On lui reproche de ne pas faire les ablutions avant le repas. Manger sans s'être lavé les mains, dit Jésus, ne rend pas l'homme impur. C'est du cœur que viennent les mauvaises intentions qui rendent impur. On lui reproche de faire des guérisons le jour du sabbat, qui est un jour de repos. Cet individu n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas de Dieu, disent les Juifs. On lui reproche de se laisser caresser par une prostituée et, d'une certaine manière, de se servir de l'amour de cette femme pour faire la leçon un pharisien, un juif très croyant. Ses nombreux péchés, lui dit Jésus, ont été pardonnés, puisqu'elle montre beaucoup d'amour. On lui reproche de ne pas condamner la femme adultère et de couvrir de honte les juifs qui veulent la lapider, conformément à la Torah. Moi non plus, je ne te condamne pas, lui dit Jésus, va et désormais ne pêche plus. On lui reproche d'oser dire à un paralytique, tes fautes sont pardonnées. Cet homme blasphème, disent les Juifs, qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? On lui reproche de refuser de condamner les Romains, et de demander plutôt aux Juifs de faire leur propre examen de conscience. On lui reproche de faire l'éloge de ceux qui se reconnaissent pécheurs et de condamner ceux qui se croient parfaits parce qu'ils sont pieux. Tout humain qui s'élève, dit Jésus, sera abaissé. Tout humain qui s'abaisse sera élevé.
Ce procès de Jésus n'a-t-il pas été fait dès les débuts de sa prédication?
Oui, les paroles, les attitudes de Jésus ont dérouté parce qu'elles ne s'accordaient pas avec la tradition. Elles ont scandalisé parce qu'elles allaient à l'encontre de la Torah qui était l'enseignement de Dieu. Le chemin que Jésus propose pour aller à Dieu est tellement différent de celui que les penseurs officiels d'Israël proposent. Ceci, d'une certaine manière, c'était évident, ne pouvait pas voir Jésus comme un vrai Messie. Jésus prêche trop la liberté de conscience. Il apprend aux gens que la vérité de ce que l'on est, de ce que l'on fait, passe avant l'obéissance aux règles, aux rites et à la discipline. Il prêche trop l'amour et le pardon, au détriment de la justice. Il prêche trop la non-violence, qui semble inefficace contre les malfaisants, notamment contre les Romains. Il prêche trop la liberté, au détriment de l'obéissance. Pour Jésus, l'obéissance, en effet, n'est pas la soumission à un ordre extérieur qui viendrait d'ailleurs, même si cet ailleurs est supposé être Dieu. Obéir pour Jésus, c'est accorder son attitude à l'attitude de Dieu qui nous veut libres. Oui, pour lui, Dieu est un libérateur. Dieu nous veut aimants, c'est-à-dire libres. Et il n'y a pas d'être aimant sans liberté, comme il n'y a pas d'être libre sans amour. Alors cet homme qui agit comme un être libre à l'égard de tous et de tout, eh bien il va déplaire à ceux qui gouvernent et qui font respecter les lois. Cet homme qui agit avec bonté et compassion va déplaire à ceux qui défendent la justice. Cet homme qui agit humblement sans violence va déplaire à ceux qui veulent employer la force contre les Romains pour libérer enfin Israël, comme par exemple les Zélotes. Oui, avec Jésus, il n'y a ni domination ni esclavage. Il fait vivre chaque fils, chaque fille de Dieu, du grand souffle libérateur de Dieu. Dans la cour où Pierre voit son maître abandonné et outragé, Pierre se sent peut-être proche de tous ceux qui n'ont pas compris Jésus. Proche de tous ceux qui se scandalisent des paroles et des gestes de Jésus, parce qu'ils n'acceptent pas que Jésus préfère la bonté à la justice, le pardon au châtiment des coupables, le don de lui-même à la légitime défense. Pierre se sent peut-être proche de tous ceux qui accusent Jésus de prêcher un Dieu qui n'est pas celui dans lequel il croit. Écoutons un théologien dominicain Christian Ducoq qui traduit bien ce qui a conduit Jésus à la croix.
Certes, tout en lui avait l'allure du prophète, la parole, l'attitude, le miracle même. Et pourtant tout en lui sapait l'organisation séculaire de la religion et faisait éclater l'image alors majoritaire de Dieu. Le chemin qui menait l'homme à Dieu selon Jésus était si différent à leurs yeux de la voie biblique qu'il leur parut impensable que cet homme ne fût pas un faux Messie.
Oui, pour Pierre, comme pour les pharisiens, comme pour les zélotes, le Dieu libre, bon et humble qui est le Dieu de Jésus, ce Dieu qu'il appelle si facilement papa, ce Dieu leur semblait, d'une certaine manière, une caricature du vrai Dieu.
Je ne connais pas cette personne.
Oui, mais si Pierre, lui, ne connaît pas cette personne de Jésus humilié, condamné, Jésus, lui, connaît Pierre. Et Jésus saura amener Pierre à reconnaître en lui humilié et condamné, le vrai visage de Dieu. L'Évangile nous dit simplement, le coq chanta et Pierre se souvint.
Il se souvint de quoi?
Eh bien, il se souvint du geste de Jésus lui lavant les pieds. Oh, ce geste, il ne faut pas tant le voir comme un geste d'humilité, plutôt comme un geste d'amour. Laver les pieds était en effet considéré comme trop humiliant pour qu'on puisse le demander même à un serviteur. Mais ce geste de laver les pieds était un geste d'affection, un geste qu'une fille pouvait accomplir envers son père, mais aussi qu'un disciple pouvait accomplir envers son maître. On disait qu'un maître qui refusait que son disciple puisse lui laver les pieds, c'était comme s'il refusait l'amitié de ce disciple. Et à Pierre qui refusait justement que Jésus lui lave les pieds, c'est précisément ce que Jésus avait dit.
« Si je ne te lave pas les pieds, tu ne seras pas en communion avec moi. »
Et Jésus avait fait ce geste de laver les pieds de Pierre alors qu'il savait que Pierre allait le renier. Oui, Pierre se souvient. Et il comprend que d'avance, Jésus lui a pardonné puisqu'il a posé envers lui ce geste d'amour. Le récit de Luc nous le dit.
« Comme Pierre parlait encore, un coq chanta. Jésus se retourna, posa son regard sur Pierre, et Pierre se rappela la parole du Seigneur. »
Ce regard confirme le souvenir de Pierre. Et Pierre expérimente en lui-même, en son propre cœur, que le pardon est plus fort que la condamnation, que la bonté est plus forte que la punition, que la force et la dureté ne conquièrent pas les cœurs. Pierre comprend que ce visage d'humilité de Jésus est le vrai visage de Dieu, d'un Dieu qui est Père. Oui, ce Jésus, dans sa marche vers la mort, remet en question notre regard sur Dieu. Oui, inévitablement, nous concevons Dieu à notre mesure. Nous pensons toujours, un peu, c'est pas évident, peut-être beaucoup, que Dieu exige de nous des performances morales, que Dieu a des reproches à nous faire si nous ne sommes pas à la hauteur. Oui, nous avons bien du mal à regarder Dieu comme ce Père qui va au-devant de ses fils, comme ce Père qui pardonne et qui se réjouit de nous voir revenir, comme celui qui se met à nous servir, à nous nourrir, comme ce Père qui donne sa vie comme geste ultime de pardon, comme celui qui ne désire rien d'autre de nous qu'une grande communion dans l'amour. Lui, Pierre, devant ce regard de Jésus, qui lui rappelle le lavement des pieds, comprend qu'il lui faut changer de regard sur Dieu, et qu'il lui faudra aussi changer de regard sur la croix, car cette croix qu'il voulait éloigner de Jésus, cette croix qui était pour lui un scandale, une occasion de chute, cette croix est justement ce qui vient de le sauver, lui, Pierre, en lui révélant que le véritable amour est pardon. Malgré ses doutes et ses faiblesses, Jésus continue et continuera à lui accorder son amitié, et cela à jamais.
Toi qui connais depuis longtemps, depuis ton cœur d'enfant qui est Dieu, c'est toi désormais qu'il a choisi pour apprendre au tout petit son amour merveilleux. Vers ces gens où Dieu t'envoie, qui souffrent d'être en croix tous les jours. S'ils voient que tu cherches à prendre part à leurs peines et leurs espoirs, ils croiront à l'amour. Amour pour amour, jusqu'au don de soi-même, s'offrir sans retour. Est-il plus beau, je t'aime. Amour pour amour, tendresse pour tendresse, s'offrir sans retour, tant que l'amour nous blesse. soit couverte de fleurs et de fruits.
Ainsi que fleurissent entre tes mains le monde comme un jardin débordant de sa vie. Amour pour amour, jusqu'au don de soi-même, s'offrir sans retour, est-il plus beau, je t'aime. Amour pour amour, tendresse pour tendresse, s'offrir sans retour, tant que l'amour nous blesse.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse exacte de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chers auditeurs et auditrices, bonne semaine sainte. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.